franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est pratiquement 13h30, c'est l'heure de la marche de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Claire Servagent.
De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Du bel enquêteur du Paris des Lumières, Nicolas Le Floch avec son inventeur.
On va pouvoir commencer? Allons-y!
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Nicolas Le Floch.
Oui.
Feu le jeune comte de Ruissec.
Ne s'est pas homicidé, il a été assassiné.
Faites ce qu'il convient pour en être assuré.
Que votre Altesse royale se rassure. Nous allons prendre toute disposition pour tenter de régler discrètement cette affaire. Le commissaire Le Floch m'accompagnera.
Nous savons qui est monsieur Le Floch. Mon père le roi le connaît et le tient en haute estime.
Qui est Nicolas Le Floch? Depuis l'an 2000 en librairie, depuis 2008 à la télévision, breton de Paris, il a été nommé commissaire auprès du lieutenant général de police, l'ancêtre du préfet, dès 1761. C'est un chien de race qui chasse sans faiblesse. Les années passent et c'est à peine s'il vieillit, juste un fil gris dans la chevelure, il n'aime guère les perruques. Et toujours l'agilité de l'enfant qui jouait naguère sur les grèves. Nul empattement non plus, en dépit de son goût pour la bonne cuisine. C'est qu'à Paris, capitale des foules, des crimes et des plaisirs, il faut, si on veut rester singulier, garder dans son maintien quelque chose de militaire et de religieux. Surtout en ce siècle des Lumières, période d'élargissement de tous les progrès, mais aussi de tous les dangers. Roman historique, roman policier, mais tout autant roman d'apprentissage, les aventures de Nicolas Le Floch en sont, en ce début d'année, à leur 10e livraison. L'enquête russe vient de paraître chez Lattès et sur France 2. C'est la 4e saison dès ce vendredi 13 avec le Dîner des Gueux. L'inventeur de Nicolas Le Floch, c'est Jean-François Parot. Bonjour.
Bonjour.
Qui, historien de formation, vous avez été élève de Roland Mounier et avez fait votre mémoire de maîtrise sur...
les structures sociales des quartiers de Paris à la veille de la Révolution.
Et notamment sur le quartier de Grève que va découvrir à son arrivée dans la capitale le jeune Nicolas Le Floch. Vous êtes diplomate et c'est depuis des postes lointains que vous avez rédigé les 8 ou 9 premiers volumes de Nicolas Le Floch au moins.
Oui, le diplomate travaille. Le diplomate informe son gouvernement. Mais enfin, il a aussi quelques loisirs. Et dans les pays difficiles, où la neige tombe, où la glace embarrasse les rues, comme c'était le cas en Bulgarie dans des années difficiles, eh bien, le samedi et le dimanche, il se raconte à lui-même des histoires.
Mais même en Guinée-Bissau, il fait beaucoup plus chaud, notamment parce que les putschs succèdent aux coups d'État. Vous aviez une bonne table. La plus réputée d'Afrique de l'Ouest, paraît-il, ça ne vous empêchait pas d'avoir votre table de travail.
Non, j'ai toujours continué à travailler. Lorsqu'il y a un moment de répit dans le travail diplomatique, ou le samedi ou le dimanche, et puis je dois dire que les événements que l'on vit comme diplomate nourrissent aussi l'imaginaire.
Alors ça va, vous avez une formation d'historien, vous avez tout lu de l'ancienne et de la nouvelle histoire, donc notre équipe ne voyait pas d'inconvénient à ce que Jean-François Parot fût invité. Mais c'est un personnage inventé, ce Nicolas Le Floch, m'ont-ils dit. Est-ce qu'on peut présenter un personnage inventé dans la marche de l'histoire?
L'histoire est un récit. Alors c'est un récit fondé sur des réalités, des recherches, des analyses, mais un personnage inventé peut joindre l'imaginaire et la réalité. Et c'est un peu cette gageure que j'ai essayé de remplir, c'est-à-dire faire un personnage imaginaire qui va traverser la moitié du siècle, mais qui va le faire dans des conditions où l'histoire est respectée.
De toute façon, une thèse vous légitime, vous êtes labellisé, presse universitaire de Perpignan, grand succès de librairie, Pascal Arismendi, le tableau de Paris selon Nicolas Le Floch. Il arrive à Paris, Nicolas Le Floch, donc dans les années 1760, il est bien pris, de proportion parfaite, la tête haute, mais apparemment il ne se nomme que Le Floch, ce qui n'est pas un avantage quand il faut pénétrer les secrets des aristocrates. Dans la série télévisée, quatrième saison et dixième épisode à partir du 13 janvier. Jérôme Robard joue Nicolas Le Floch et ici, dans un épisode un peu ancien, il est apostrophé par le comte de Ruissec, Jean-Yves Gauthier.
Qui êtes-vous, monsieur, pour pouvoir parler d'honneur? L'honneur, il faut l'avoir porté en soi pour pouvoir en parler. Comment osez-vous, monsieur, l'exempt? Qu'est-ce cela? Votre chevalier, comment se peut-il? À quel titre vous parez-vous des armes de mon vieil ami, le marquis de Ranreuil?
Votre vieil ami est mort. Et je tiens de lui le sang et les chevrons des Ranreuil. Et je vous conseille de mesurer vos propos.
Oui, il a été élevé sous le nom de Le Floch en Bretagne, entre Guérande, qui vous est chère, et Vannes, qui vous est presque aussi chère. Mais s'appelle-t-il vraiment Le Floch?
Alors, c'est un enfant trouvé. Il a été trouvé sur une pierre tombale dans la collégiale Saint-Aubin de Guérande, et il a été élevé par un chanoine, le chanoine Le Floch. Mais il se trouve que son parrain est un aristocrate, le marquis de Ranreuil, qui veille sur son éducation et dont on finira par découvrir qu'il était son père naturel.
Alors, il quitte la vieille forteresse, tapis au milieu des arbres et des eaux, et la bonne ville de Guérande. Vous écrivez en Bretagne maintenant, Jean-François Parent?
Oui.
Et à Paris, il va trouver à la tête de la police un ami, justement, de son père, le marquis de Ranreuil. Cet ami a le titre de lieutenant général. Le titre existe depuis 1667. Monsieur de Sartine l'occupe donc au milieu du XVIIIe siècle. Et lui aussi, il y a une blessure qui doit le faire souffrir parce qu'on le considère, dans la noblesse réactionnaire, comme un aventurier catalan, quelqu'un qui vient de la roture.
Mais qui prétendez-vous être, monsieur, pour me donner des ordres? Sartine. Le nom sent encore l'épicerie. Sartine, un petit magistrat à peine sorti de la caque de sa roture.
Un petit magistrat, certes. Mais qui ne tient directement ses ordres que du roi.
Le roi. Vous n'avez que cela aux lèvres, le roi.
Auriez-vous, monsieur, à redire contre sa majesté?
Je m'en garderai bien.
Alors, on va parler, si vous voulez bien, de l'organisation assez exceptionnelle de la police de Paris par le roi à la tête, le lieutenant général.
Alors, il faut bien comprendre, tout d'abord, que la police à Paris au XVIIIe siècle ne correspond pas à ce que nous connaissons aujourd'hui. La police, c'est beaucoup plus largement toute l'administration de la cité. C'est beaucoup plus, le lieutenant général de police est beaucoup plus proche d'un ministre de l'Intérieur, qui serait aussi ministre de l'Équipement, ministre des Transports, ministre de l'Alimentation, car il s'occupe à la fois de la sûreté des Parisiens, mais aussi de l'hygiène, de l'approvisionnement, et c'est très important, puisque vous savez, le prix du pain, la farine, les bêtes qui arrivent à Paris, tout cela appartient à son administration. D'autre part, il a avec le roi un contact tout à fait particulier, puisque une fois par semaine, il est reçu par le roi à qui il dévoile les secrets de la ville et de la cour. Pourquoi? Parce qu'il y a le cabinet noir, parce qu'on ouvre le courrier, et qu'en particulier, Louis XV était très friand de connaître les affaires galantes qui agitaient le monde sous son règne. Alors cet homme, qui a une grande influence, est aidé par des magistrats, mais aussi par des magistrats que sont les commissaires de police et les inspecteurs de police.
Les commissaires, il y en a un par quartier, mais ils sont titulaires d'une charge dont j'imagine qu'ils l'ont acheté, qu'ils l'exercent dans leur hôtel et qu'ils attendent un retour sur investissement.
Oui, et ça a été un problème au cours du siècle, car il y a eu des problèmes de corruption. Et si Sartine a été nommé en 1767, comme vous le rappeliez, c'était aussi pour remettre de l'ordre au sein de la police parisienne. Alors le commissaire, à la fois, a des bénéfices parce qu'il touche sur les inventaires, sur les exhumations, sur un certain nombre d'actes légaux sur lesquels il prend sa prébende. Mais il y avait aussi des problèmes de corruption et Sartine va s'attacher à rétablir l'ordre. Et dans le premier roman, eh bien, on voit qu'il y a un commissaire de police qui va être le formateur de Nicolas Le Floch, qui, d'évidence, est en situation de corruption vis-à-vis de maisons galantes de la prostitution parisienne.
C'est l'énigme des blancs manteaux. Dans le premier roman apparaît tout de suite l'inspecteur. Alors, l'inspecteur, c'est celui qui, dans la police à Paris à l'époque, est chargé de l'enquête. Et il y a un binôme qui se forme entre le commissaire Le Floch et Bourdeau. Vous parlez d'exhumation. Eh ben, justement, on va causer technique. C'est au Châtelet, et non pas à l'emplacement de la morgue actuelle, un peu plus loin sur la Seine, qu'ont lieu les identifications de cadavres et les autopsies. Ce sont des morceaux de bravoure dans votre écriture et des moments décisifs dans les enquêtes.
Le vicomte ne s'est pas homicidé, il a été assassiné.
Faites ce qu'il convient pour en être assuré.
Pour cela, le corps doit être soustrait à ses proches et conduit à la basse geôle du Châtelet pour y être ouvert et examiné.
Eh bien, soustrayez, monsieur le commissaire. Soustrayez.
Paris est un fumier sur lequel grouillent les mouches. L'ouverture du corps du vicomte, vous y songez toujours?
Plus que jamais. Rendez-vous à la basse geôle du Châtelet. Vous êtes aussi de la partie. Et comme je vous cède odorat fragile, n'oubliez surtout pas votre pipe.
Notez que la plaie au torse n'a pas saigné. La blessure est postérieure à la mort. En outre, il y a ceci.
Quelque épouvantable vieil. Hein?
Non, monsieur. Feu le jeune comte de Ruissec.
Jeune, dites-vous. Avec un tel visage, comment est-ce possible?
Allez, un grand mouchoir blanche sur les narines et puis une autre petite autopsie pour la route.
Regardez. Lourd et ductile. Du plomb, messieurs. Cet homme a un ventre de plomb. Avez-vous considéré son visage?
Oui. Jamais je n'ai vu plus horrible spectacle.
La face est comme rétrécie. Semblable à ces têtes réduites comme on en voit chez les peuplades sauvages des Indes occidentales, cet homme a été tué, torturé, massacré. On l'a fait boire du plomb fondu. L'intérieur était consumé, la tête diminuée, les viscères détruits. L'agonie épouvantable.
On a tiré à bout portant sur un homme étouffé par absorption de plomb en fusion.
Oui, alors deux choses. D'une part, je suis un écrivain qui a assisté à des autopsies. Lorsque j'étais élève au musée de l'Homme et que je faisais des études d'anthropologie, et alors j'avais assisté à des autopsies, mais aussi j'avais autopsié des momies égyptiennes, car il y avait une collection au musée de l'Homme extraordinaire de momies égyptiennes. Donc j'ai quelques petites connaissances à ce sujet. Alors il faut dire qu'au XVIIIe siècle, on se trouve à un moment où on va passer de l'enquête et aveu par torture à l'enquête sur preuve.
Le Floch, il n'a jamais été partisan de la torture. Parce
il n'a jamais été partisan, c'est un homme des Lumières, il n'est pas partisan de la torture. Et par conséquent, il est allé à Vienne au cours d'une de ses missions, et il s'est aperçu qu'en Autriche, en particulier, on était très avancé sur ce qu'on appellera plus tard la médecine légale. Et par conséquent, il va appliquer, avec l'aide du bourreau Sanson, qui est un spécialiste du corps humain du fait de sa spécialité particulière, il va appliquer ses nouvelles techniques d'investigation.
Je parlais du mouchoir blanc qu'il faut se mettre sur le nez. Vous êtes très sujet aux odeurs.
Oui, je crois que c'est un monde, le monde du XVIIIe siècle, qui n'est pas le monde aseptisé que nous connaissons aujourd'hui. C'est un monde d'odeurs, c'est un monde qu'on pourrait retrouver dans ce remarquable roman qu'est Le Parfum. Et c'est un monde que j'ai retrouvé d'ailleurs sur les marchés africains. J'ai vécu 18 ans en Afrique et c'est vrai que le marché africain pouvait me rappeler à beaucoup d'égards les marchés et la halle de Paris.
Alors les odeurs de la cuisine?
Les odeurs de la cuisine. Les odeurs de la cuisine, puisque Nicolas est un gourmand, est un gourmet, et que dans mes romans, eh bien, on voit apparaître de nombreuses recettes, tout simplement parce que le XVIIIe siècle, le moment où se fixe la cuisine française, où elle se démocratise, où tout le monde fait la cuisine, le roi à Versailles, dans ses petits appartements, et aussi le moment où il y a un grand débat entre la nouvelle et l'ancienne cuisine, dans les termes exacts, de la même querelle dans les années 60, au siècle dernier.
Les odeurs des mauvais lieux de Paris, nous sommes, si vous vous tournez et que vous regardez par le hublot, tout près de l'île aux Cygnes, sur la Seine. Alors, ce n'était pas le 16e ni le 15e arrondissement.
Cette île aux Cygnes était l'endroit où il y avait, où on fondait le suif, Parce qu'il faut imaginer une ville où chaque jour, des centaines d'animaux meurent. Les chevaux, des attelages, les bestiaux que l'on abat dans les rues, le sang qui coule vers la Seine. Mais il y a toutes ces graisses qui sont utilisées pour faire des chandelles. Et par conséquent, il y a deux lieux épouvantables à Paris. Tout d'abord, Montfaucon, c'est-à-dire actuellement l'endroit de la Villette. Et l'île aux cygnes, où il y a des grandes batteries où on jette ces graisses et on les fait fondre, et il y a une odeur épouvantable qui environne tout le paysage environnant.
Et puis il y a les véhicules ambulants, les chalets de nécessité, par exemple celui de Tirpeau, qui est un Breton de Pontivy, qui fait office d'indicateur, et qui justement a entendu, au moment de cet épisode, l'énigme des Blancs-Manteaux, dire qu'il s'était passé quelque chose avec deux drôles d'individus à Montfaucon, au pied des gibets.
Ils sont deux, monsieur. L'un des deux rapaces est un ancien soldat en rupture de régiment, devenu boucher par la force des choses. Le second, Bricard, est en effet un ancien canonnier de la marine. L'homme se vante d'être capable de briser des chaînes avec ses poings aussi aisément que d'étrangler un bœuf à main nue.
C'est bien, il nous faut les retrouver, Tirpeau.
Ils prennent leur quartier chaque soir dans un estaminet louche, tout près du cimetière Sainte-Catherine, où je vous conjure de ne pas vous rendre sans une très robuste et très déterminée escouade de Jean Duguay.
Chantons l'illustre Ramponneau, dont tout Paris raffole. On a chez lui du vin nouveau, les filles qu'on cajole. C'est là que Michaud renverse Isabeau sur le cul d'un tonneau. On danse au son du tambourin, on fait la cabriole. On se bat, on se prend au crin, on se frotte, on se frôle. Puis on en revient au vin qui soutient, à Catin qui vous tient. Résiste et zeste, point de chagrin, on y rigole avec du vin. Résiste et zeste, point de chagrin, on y rigole avec du vin.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Et puis Philippe Meyer qui interprétait la guinguette de Ramponneau. Nous sommes toujours avec Jean-François Parot, notre invité aujourd'hui, l'inventeur de Nicolas Le Floch dans le Paris des années 1760-1770. C'est à peu près l'époque du tableau de Paris de Mercier. C'est à peu près l'époque des Nuits de Paris de Restif de la Bretonne, qui apparaît d'ailleurs dans tel ou tel épisode de votre série. La ville policée est aussi une ville charnelle.
Oui, c'est une ville où il y a un lien étroit entre l'exercice et l'exploitation de la galanterie et la police. La police, qui était, disait-on à l'époque, la meilleure de l'Europe, était une police fondée sur le renseignement, renseignement que l'on trouvait dans les maisons galantes, mais aussi renseignement qu'apportaient d'innombrables mouches. Sartine avait coutume de dire que lorsque trois personnes parlaient ensemble dans la rue à Paris, deux d'entre elles lui appartenaient. Alors, cette ville est une ville observée, contrôlée, et en particulier par deux hommes que sont Sébastien Mercier, un extraordinaire voyeur qui se promène et qui raconte comme un journaliste ce qu'est la ville de Paris au XVIIIe siècle. Et puis, Rétif de la Bretonne, qui lui, que l'on surnomme le hibou, parce qu'il fréquente Paris la nuit et qu'il raconte tout ce qu'il voit. Et il raconte tout ce qu'il voit au bénéfice aussi de la police, car on peut penser aujourd'hui qu'il était indicateur de police, ayant quelques petites affaires de mœurs à se reprocher. Eh bien, on avait pression sur lui.
Allez, on a gagné un jeton pour une maison galante. Tout à l'heure, on entendait parler de l'auberge Ramponneau. Voici maintenant une maison qui fonctionne surtout la nuit, mais aussi le jour, et qui s'appelle le Dauphin couronné, tenu par la Paulet.
Que veut-vous le plaisir, monsieur le commissaire ?
D'autres s'amusent ce soir et d'autres pas. Des raisons de police, madame.
On peut guère vous reprocher d'avancer masqué.
Minuit passé, la fête est finie, les masques ne sont donc plus mises. On n'ignore pas votre table de pharaon en bas. Encore faut-il que les dés ne soient pas pipés et que le jeu soit loyal. On n'ignore pas non plus vos filles et leur commerce. Encore faut-il qu'ils ne soient pas épicés.
Mais vous savez bien que vous tenez ma personne dans votre main, commissaire.
De nouvelles pensionnaires ?
Une nouvelle, oui. Une nouvelle qui rabat chez moi, mais refuse d'y consommer. La coquine est un morceau de choix. Elle se fait appeler la Satin. Et gîte je ne sais où. Vous fréquentez à la Comédie Italienne à présent.
La Comédie Italienne, l'opéra, quand il est détendu, Nicolas Le Floch siffle des airs d'opéra.
Oui, Nicolas, comme un homme de son siècle, apprécie la musique. Il joue d'ailleurs de la bombarde. Et il habite chez un vieux magistrat, M. de Noblecourt, qui fait concert de temps en temps dans son salon et qui, lui, joue de la flûte traversière.
Tenez, on parlait de mixité. Si on emploie ce vain mot d'aujourd'hui, la mixité sociale, la maison de M. de Noblecourt, où il a sa chambre puis son appartement, Nicolas Le Floch, ça, c'est un lieu de mixité sociale. C'est-à-dire que il faut imaginer que la misère, la grandeur peuvent se côtoyer et on a dans un immeuble... Décrivez un peu le fonctionnement des étages.
Alors, M. de Noblecourt, qui est un magistrat retiré, eh bien, au rez-de-chaussée, il a loué son rez-de-chaussée à un boulanger. Donc, il y a une boulangerie au rez-de-chaussée de l'hôtel de Noblecourt. Et puis, alors, au-dessus... Eh bien, il y a son logement avec l'office, avec les pièces de service, et un peu plus loin, les chambres dans lesquelles dorment sa gouvernante, son valet de chambre Postillon, et puis la cuisinière qui a été sauvée de la misère par Nicolas. Et puis Nicolas, qui vit dans un petit appartement qui a été installé au deuxième étage et au troisième étage et au deuxième étage, M. de Noblecourt avec ses appartements.
Mais il n'y a pas des étages loués au-dessus ?
Il n'y a pas d'étages loués au-dessus, il y a des étages loués à côté.
Il faudra que vous fassiez...
Un plan.
Un plan et puis des superpositions. Où tourne-t-on d'ailleurs maintenant les séries ? On connaît vos réalisateurs, Edwin Benny,
alors on tourne...
Nicolas Picard-Dreyfus.
On tourne essentiellement dans le Vieux Mans, on tourne aussi à Senlis, qui est une ville admirable, et pour... des épisodes différents en Périgord.
Oui, mais ça, ce sont des villes, je ne veux pas froisser les habitants du Mans et de Senlis, un peu musées pour leurs quartiers les plus anciens. Le Paris de Nicolas Le Floch, c'est un Paris d'agrandissement. D'ailleurs, il y arrive par les faubourgs et il fréquente souvent l'extérieur de la ville.
Oui, alors c'est une ville qui est en train d'éclater dans ses... dans son apparence ancienne, et en particulier on s'installe au-delà des boulevards. Et puis alors il y a des quartiers qui disparaissent comme quartier à la mode, le Marais disparaît comme quartier à la mode, et puis ce sont les parties nouvelles, il y a de nouveaux quartiers, nouvelle Pologne, nouvelle Varsovie, qui se construisent à l'est de Paris.
Il y a ce qu'il y a à l'extérieur, et vous êtes très attentif à ce qu'il y a en dessous, au Paris mystérieux souterrain.
Oui ! J'ai un message pour le commissaire Le Floch.
Le chevalier d'Aumont vient d'être aperçu non loin de la rue de l'Hirondelle, entrant par une porte basse ornée d'une figure étrange.
Ah, mais... Vengeance ! Mes frères, le temps peut se rapprocher. Vengeance !
D'Aumont !
Vous, misérable traître.
Donnez. Au nom de la Sainte Croix, donnez ! Le temple est mort, chevalier, et vous le savez bien.
Alors, que la royauté périsse aussi.
Partout des phénomènes de possession, il y avait eu, dans le temps ancien, les convulsionnaires du cimetière de Saint-Médard. Il y a les possessions du fantôme de la rue Royale. Ici, un autre phénomène mystérieux. Comme si d'ailleurs, disiez-vous, l'Afrique campait à Paris.
Oui, il faut voir que le XVIIIe siècle, qui nous apparaît comme un siècle de lumière, peut être aussi encore un siècle d'obscurité, où des phénomènes très anciens se produisent. Les lumières, eh bien, ce sont les villes, et c'est une couche assez fine de la population. Les anciennes croyances demeurent encore très fréquemment avec manifestation un peu étrange, et comme disait le prince de Ligne, plus on a de lumière, moins on est éclairé.
Paris, et puis Versailles. Nicolas Le Floch suit Sartine à Versailles quand la fortune commence à lui sourire et que le roi aime bien le convoquer dans ses petits appartements le soir pour des récits épicés. Mais ça nécessite pour le petit Breton la même adaptation Versailles que Paris.
avait nécessité. Oui, Nicolas Le Floch, ayant d'ailleurs rendu un service signalé à Louis XV et à Madame de Pompadour, est donc présenté à la cour par Monsieur de Sartine. Et là, il va jouer, sa vie, sa carrière, son avenir, parce qu'il va savoir distraire le roi. Et pour distraire le roi, eh bien, il a ce don du récit brillant, court, amusant, accrochant l'attention du souverain, et donc lui donnant l'impression que pendant quelques instants, eh bien, la lourdeur de sa tâche disparaît et qu'il a le plaisir d'apprendre quelque chose de nouveau.
Alors maintenant, l'auditeur, c'est le roi, et il lui faut en une demi-heure quelques épisodes en sons imagés.
Monsieur Le Floch, savez-vous que Sa Majesté s'est inquiétée récemment de vous à plusieurs reprises ?
Les devoirs de son service me laissent peu de temps pour les civilités.
Il n'empêche, vous êtes trop discret. Songez que pour le roi, vous êtes le marquis de Ranreuil, et qu'il ne tient donc pas...
Le marquis de Ranreuil, mon parrain, avant que je sache qu'il était mon père, m'avait enseigné que la valeur de l'homme ne tient pas à sa naissance, mais à ce qu'il fait de sa vie.
Cela vaut aussi pour les femmes. Avant d'être Pompadour, je suis née poisson.
Une petite bourgeoise, élevée à la grivoise, mesurant tout à la toise, fait de la cour un taudis. Le roi, malgré son scrupule, pour elle, follement brûle. Cette flamme ridicule excite dans tout Paris. Cette catin subalterne insolemment le gouverne, et c'est elle qui décerne les honneurs à prix d'argent. Mais pour si mince figure et si sotte créature s'attirer tant de murmures, chacun pense le roi fou.
Alors, ce qui amusait le roi, c'était les récits macabres. On ne va pas reprendre un récit d'autopsie. Ce qui pouvait amuser le roi aussi, c'était la langue qu'utilisait Le Floch, qu'on voit dans vos livres, bien plus que dans les séries télévisées qui sont nécessairement lissées. Une langue qui bouge tout le temps du fait du peuple de Paris.
Oui, c'est une langue qui est une langue à niveau. Il y a des niveaux de langue, il y a la langue du peuple, il y a la langue de la cour. Quelquefois, d'ailleurs, la langue de la cour rejoint la langue du peuple parce que, après la mort de Louis XIV, eh bien, on s'était mis à parler un petit peu canaille. Et des personnages comme le maréchal de Richelieu ou Madame de Maurepas, très âgés sous Louis XVI, eh bien, parfois, ce langage de leur jeunesse leur revenait et ils parlaient à la manière du peuple. Alors, c'est vrai qu'il a fallu essayer de faire en sorte que soit vraisemblable la manière dont parlent les personnages des romans. Et il ne s'agissait pas de faire un pastiche, il s'agissait de faire quelque chose qui peut-être aurait été reconnu par des gens du XVIIIe siècle qui auraient écouté ses propos.
Alors, exemple, vous mettez beaucoup de mots empruntés au vocabulaire divers selon les différents niveaux de langage du XVIIIe siècle, avec à chaque fois une note. On n'en a pas entendu beaucoup dans l'émission « S'homicider ».
Alors,
s'homicider, par exemple.
Homicider. Oui. Alors, s'homicider, ça veut dire se suicider. Hein, c'est pratiquer l'homicide sur soi-même. Ouais. Alors, il y en a beaucoup. Mais je voudrais dire surtout que, en tant que diplomate, j'ai pendant 40 ans défendu la langue française. Je pense que la langue française ne doit pas être fermée sur elle-même et qu'elle doit progresser. Mais je pense aussi que des vieux mots français doivent être renouvelés, ressourcés, parce qu'ils sont magnifiques, que nous avons été pendant des siècles, un siècle paysan, un siècle de chasseurs, un siècle de guerriers, un siècle d'artisans, et qu'il y a, de tout ce passé, un vocabulaire d'une richesse incroyable et, je dirais, d'un caractère charnel que l'on devrait préserver.
On a foutinabulé dans vos livres, là, ce midi.
Foutinabulé, oui.
C'est-à-dire ?
Eh bien, ça veut dire baiser comme un chien.
Ah, et c'était un chien de race qui chassait dans tout domaine,
oui,
Nicolas Le Floch.
Un chien de lice.
Est-ce qu'il y a des anachronismes, se demandent ceux qui sont surpris par le mélange de vocabulaire moderne et de vocabulaire ancien que vous prônez. Par exemple, on a repéré dans tel téléfilm un compotier dans lequel il y avait trop de bananes. Il aurait dû même ne pas avoir de bananes. Et alors, quand vous expliquez que du Pont Neuf, on voit la statue équestre d'Henri IV et la pompe de la Samaritaine, je me suis dit, mais la Samaritaine,
Oui, alors pour ce qui est des utilisations des termes dans la série, je n'en suis pas responsable. Ouais. En ce qui concerne la pompe de la Samaritaine, eh bien, il y a eu une pompe qui prenait l'eau de la Seine avec une statue de la Samaritaine. Et d'ailleurs, il y a un épisode assez dramatique qui se passe dans cette pompe de la Samaritaine dans l'un des romans.
Alors, autre question lancinante de vos lecteurs, vous arrivez avec le nouveau livre qui paraît chez Lattès, L'enquête russe, en 1782. Qu'est-ce qui va advenir de Nicolas Le Floch quand il va devoir faire, il aura 50-60 ans, les choix de la Révolution?
Alors, moi, je n'en sais rien parce que j'écris mes romans d'une manière un petit peu inconsciente, comme si une voix mystérieuse me soufflait et les propos et me montrait comme un film que je décris à mes lecteurs. Je sais simplement que Nicolas est un Breton fidèle, loyal, et que par conséquent, les événements qui vont se dérouler le mettront dans une situation particulièrement difficile.
On a entendu des odeurs de mort, je dis bien, on a entendu des odeurs de mort, de pieds de bœuf transformés en huile, odeur et parfum. C'est le thème pour Mathieu Vidard. Dans quelques instants, l'émission était réalisée par Marie Casanova avec Julien Chabassu, Éric Morin, Frédéric Martin, Camille Poux-Jalaguier et Franck Olivard. Il est 14h, vous écoutez France Inter.